Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours au cours de laquelle nous reviendrons sur les grands thèmes africains commentés par les éditorialistes allemands. C'est dans l'Afropress, présenté par Philippe Poyan. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Et cette semaine, j'ai retenu deux thèmes. Donc l'un concerne les faiblesses de la MONUSCO face à la situation de crise en République démocratique du Congo. L'autre concerne un paradoxe, les conséquences négatives de la richesse en matières premières pour les populations de nombreux pays africains.
Afrique 7 jours, c'est aussi Blogosphère. Et nous recevons ce soir le journaliste et blogueur burundais, Patrick Mitamabaro, qui sera en ligne de Kigali, la capitale du Rwanda. Mais avant tout ça, place à la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. Au Sénégal, il y a 5 ans, le 25 mars 2012, Macky Sall accédait au pouvoir. De nombreuses promesses ont été faites, mais 5 ans plus tard, les Sénégalais sont partagés sur le bilan de leur président. On les écoute.
Les problèmes qui étaient là avec Aouad sont toujours présents. Il y a des pères de famille qui sont là, qui le matin n'ont même pas de quoi donner à leurs enfants. Ah, je suis dessus.
Je pense que c'est pire. Hein. Ce qu'on a enlevé et ce qu'on a obtenu, c'est pratiquement du pareil au même. Hein.
C'est pas facile quand on se met à rebâtir, à reconstruire. Il y a ceux qui ne peuvent pas attendre. Il y a ceux qui ont une vision prospective. Mais les 5 ans de Macky sont dans l'ensemble positif.
Il n'y a qu'une seule personne qu'on a prise, c'est Karim. Et pour tout le reste, il a mis le coude là-dessus et puis voilà quoi.
Quand on n'est pas bénéficiaire de ces mesures-là, on ne peut pas apprécier à sa juste valeur. Mais tout le monde sait que sur le plan social, il a beaucoup fait.
L'opposant est dans sa posture d'opposant, ne verra jamais les bonnes choses. C'est toujours la partie vide du verre qu'il verra, mais jamais la partie pleine.
Autre sujet qui a fait la une de l'actualité africaine cette semaine, c'est la visite controversée de Marine Le Pen, candidate de l'extrême droite à la présidentielle française à N'Djamena, la capitale tchadienne. C'était en début de semaine. Au cours de cette visite, la présidente du Front National a eu un tête-à-tête avec le président tchadien, Idriss Déby Itno, avant de rencontrer le lendemain les militaires français de la force Barkhane, basée donc à N'Djamena. Cette visite de Marine Le Pen est un non-événement pour les Tchadiens, c'est ce qu'a déclaré en début de semaine à notre correspondant à N'Djamena, le journaliste et blogueur tchadien François Ndjekombe.
Je ne sais pas ce que la visite de Marine Le Pen apporte aux Tchadiens. L'opposition peut extrapoler pour dire que non, elle vient également comme une sorte de soutien au président Déby pour l'avoir félicité lors de la dernière présidentielle. C'est quelque chose qu'il faut considérer, mais moi je me dis que elle vient d'abord et avant tout pour les intérêts français. Elle ne vient pas pour offrir une tasse de thé aux Tchadiens ou bien pour régler les problèmes des Tchadiens. Nous avons d'autres chats à fouetter, c'est la crise économique, c'est la crise financière et je crois que nos propres problèmes à y faire face sont plus nombreux que ceux de Marine Le Pen.
Voilà, c'était le journaliste et blogueur tchadien François Ndjekombe avec Dariuston Blaise, notre correspondant sur place. Restons en Afrique centrale pour annoncer qu'une délégation du comité central du Parti communiste chinois a achevé en cette fin de semaine une visite de travail de 4 jours au Burundi, dirigée par le secrétaire général du PCC. Cette délégation a rencontré les responsables du CNDD, FDD au pouvoir et a visité des chantiers financés par la Chine au Burundi. Terminons cette rétrospective de l'actualité par le Mali, où la conférence d'entente nationale est prévue du 27 mars au 2 avril prochain, avec pour objectif affirmé d'aboutir à la signature d'une charte de réconciliation des Maliens, axée sur 3 grands thèmes, la pacification, la réconciliation et l'unité territoriale du pays. Les enjeux de cette conférence avec Ibrahim Ibrahim Maïga. Il est chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Dakar, basé à Bamako.
Si vous regardez de près ce qui est demandé par l'opposition politique, c'est au-delà des thématiques unité, réconciliation, paix. Ce dont il est question en filigrane, en réalité, c'est un peu le bilan du président Ibeka et sa gestion de la situation depuis son accession au pouvoir en 2013.
Rebonsoir Philippe Poyan.
Rebonsoir Eric et rebonsoir à tous nos auditeurs et auditrices.
Alors vous ouvrez la propresse par les faiblesses de la MONUSCO, la force de l'ONU en RDC face à la situation de crise dans ce pays.
La situation en République démocratique du Congo se détériore de manière inquiétante. C'est ainsi que Maman Tsédikou, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, a entamé sa déclaration mardi devant le Conseil de sécurité à New York. C'est ce que rapporte le quotidien du Tageszeitung La Taz. Les violences interethniques se multiplient, même dans les régions du pays qui étaient encore relativement stables ces dernières années. Les élites de la capitale Kinshasa et des autres villes profitent de la situation politique incertaine pour mobiliser des milices locales et imposer leurs intérêts. En 2016, les atteintes aux droits de l'homme ont augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Les deux tiers de ces crimes sont commis par des organes étatiques, un tiers seulement par des rebelles et milices. Cela rend le travail de la MONUSCO sur place de plus en plus difficile, puisque, selon son mandat, elle est censée coopérer étroitement avec le gouvernement. C'est pourquoi la MONUSCO préfère concentrer son engagement sur un soutien logistique à l'enregistrement des électeurs et à l'application de l'accord entre gouvernement et opposition passé le 31 décembre dernier. En bref, poursuit la TAT, même si le chef de la MONUSCO s'exprime de manière diplomatique, il est clair que l'ONU œuvre à mettre fin au règne du président Joseph Kabila, au pouvoir en RDC depuis 2001, par des élections présidentielles et législatives, et cela aussi rapidement que possible.
Ajoutons, Philippe, toujours concernant ce thème, que la MONUSCO comprend 19 000 soldats, observateurs de police et militaires, et c'est la plus importante et la plus coûteuse mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde. Le Conseil de sécurité doit d'ailleurs se pencher sur le mandat de la MONUSCO le 29 mars prochain, exactement dans deux jours. Et on passe maintenant à la corrélation entre les situations de crise et les richesses en matière première dans les pays africains. Et il s'agit là du second thème de cette
entreprise. Oui, exactement. Alors que récemment encore, entrepreneurs et analystes parlaient d'un continent en plein essor, de l'apparition d'une large classe moyenne et d'un avenir économique lumineux dans les pays au sud du Sahara, les désillusions sont aujourd'hui à l'ordre du jour. C'est du moins le constat de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la FAZ. La chute des prix du pétrole a freiné des stars de la croissance telles que le Nigeria et l'Angola. Une sécheresse massive frappe de larges parties du continent, provoquant la famine. Au Soudan du Sud, la population subit une cruelle guerre civile largement ignorée de l'opinion publique internationale. Et en Afrique du Sud, le parti au pouvoir, ANC, le Congrès national africain, fait tout pour réduire à néant sa réputation forgée lors de la lutte contre l'apartheid. Et en règle générale, poursuit le quotidien de Francfort, les matières premières recherchées sur le marché mondial sont pour les pays africains davantage une malédiction qu'une bénédiction. Car seule une petite clique profite des énormes revenus que génèrent ces ressources, tandis que la plus grande partie de la population, elle, n'en tire aucun bénéfice. Les dirigeants africains, qui se servent largement des revenus issus de l'exploitation des ressources minières, ne se sentent aucune obligation vis-à-vis de leur population. Ces tout-puissants qui se partagent les richesses de leur pays avec des multinationales et des intermédiaires douteux n'investissent pas un sou dans les domaines éducatifs ou sociaux, mais bien plus dans les domaines militaires et policiers, cela dans le seul but de renforcer encore leur pouvoir. Mais les élites africaines ne sont pas les seules coupables, selon la FAT. Les organisations telles que la Banque mondiale, par exemple, misent régulièrement sur des projets d'exploitation de matières premières souvent problématiques. Et le journal évoque aussi des pays qui font subir à l'Afrique un double dommage, comme par exemple la Chine, qui achète massivement des matières premières pour inonder ensuite les marchés africains de produits bon marché, ruinant ainsi l'industrie et l'artisanat du continent.
Blogosphère.
L'invité de la rubrique Blogosphère, je l'annonçais au début, s'appelle Patrick Mitamabaro, journaliste et blogueur qui vit en exil à Kigali, la capitale du Rwanda. Patrick Mitamabaro, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Selon nos informations, des corps continuent d'être retrouvés dans certains quartiers de Bujumbura. Est-ce à dire que l'insécurité continue de perdurer?
Oui, en effet Eric, il y a des cas d'insécurité qui sont rapportés. Et dans la capitale Bujumbura, il y a des civils qui sont ramassés à longueur de journée à des différentes rues de la capitale. Il y a même parmi les militaires de l'armée, de la police, qui se font tuer. C'est grave. Mais ce qui est quand même surprenant, Eric, c'est que chaque fois qu'il y a des cas d'assassinat, des cas d'exécution extrajudiciaire ou... Il n'y a pas des enquêtes qui sont suivies.
Et... Oui, mais même si Patrick Mitamabaro, l'ONU et beaucoup d'autres ONG de défense des droits de l'homme au niveau international essaient quand même d'attirer l'attention des autorités burundaises sur la commission de ces exactions.
Et tout à fait. Il y a des allégations qui sont documentées, qui sont formulées à ce niveau et des cas qui sont documentés même par les commissions d'enquête des Nations Unies. Mais comme vous le suivez de temps en temps, il y a les porte-paroles du gouvernement, de la police et même de la présidence qui refusent que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas de cas d'exécution et cas d'assassinat, alors que sur le terrain, les rapports disent autrement. Donc moi je dis qu'il y a cette méfiance de la part des autorités burundaises et qui ne veut pas enquêter sur des allégations pourtant claires sur le terrain. Donc ça fait mal s'il n'y a pas cette volonté-là de pouvoir enquêter sur ces allégations pourtant visibles et pourtant rapportées par des enquêteurs, des organisations et des associations de défense des droits humains qui suivent de près sur ce qui se passe sur le terrain au Burundi. Donc c'est vraiment regrettable qu'il n'y ait pas cette volonté et ce rapprochement entre le pouvoir de Bujumbura et les Nations Unies ou les associations, les organisations internationales de défense des droits humains pour pouvoir endiguer cette impunité qui est sur le terrain. Donc c'est une situation qui est problématique et qui, pour mon point de vue, pourra provoquer des situations catastrophiques s'il y en est fait pour éviter cette impunité.
Le porte-parole d'Agathon Rwasa, le leader donc du FNL, qui est aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le porte-parole donc d'Agathon Rwasa, Aimé Maguera, parle d'une sorte de chasse aux sorcières à l'encontre des militants de Rwasa. Est-ce que vous confirmez?
Oui, effectivement, de ce côté-là, il y a les membres du FNL. Je pourrais dire que ce groupe de membres de jeunes du FNL a été toujours la cible des forces de sécurité, la cible des jeunes Mbonerakure, parce qu'Agathon Rwasa, bien qu'il est au gouvernement, il est un peu gênant parce qu'il n'a pas les mêmes visions politiques que le pouvoir en place.
Est-ce que ce n'est pas contradictoire qu'Agathon Rwasa, qui dispose de quelques membres au sein du gouvernement et lui-même est vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas contradictoire que ces militants soient traqués par le pouvoir?
Effectivement, il y a une sorte de contradiction parce que Agathon Rwasa ne pourrait pas accepter de siéger dans son parlement alors que ses membres se font tuer à longueur de journée et que son porte-parole crie toujours une exécution extrajudiciaire de ses membres et assassinat. C'est vrai sur le terrain, mais Agathon Rwasa continue de siéger au parlement. Les cas ne sont pas traités dans cet organe alors qu'il est mieux indiqué. Finalement, Agathon Rwasa n'est pas en train de servir grand chose à ces membres qui se font tuer et arrêter en violation flagrante des réglementations du pays.
Oui, mais s'il sent qu'il ne sert pratiquement à rien, pourquoi est-ce qu'il ne démissionne pas de ces institutions?
Ça, c'est une question qui a été souvent posée à son porte-parole. Il répond que mieux vaut réagir, mieux vaut soulever les questions à l'intérieur des institutions qu'à l'extérieur. La raison faite à ses opposants qui sont à l'extérieur du Sénarède, qui rapportent des cas étant à l'étranger en exil, et ils ne sont pas mieux écoutés qu'Agathon Rwasa, qui est dans les institutions. C'est comme ça que répond le porte-parole d'Agathon Gwasa. Mais alors, si on est à... Il faut faire la part des choses, c'est que ce soit des opposants du Sénarède, que ce soit des opposants du FNL, tout le monde subit les mêmes exactions de la part des jeunes Imbonerakure qui maîtrisent le terrain.
Oui, mais est-ce qu'on peut considérer Agathon Gwasa comme étant toujours de l'opposition démocratique burundaise?
Je crois qu'il faut le considérer ainsi du moment qu'il soulève des questions d'intérêt public en opposition avec la position du pouvoir en place, la position du gouvernement de Pierre Nkurunziza. Par exemple, si le cas du changement de la constitution à Agathon Gwasa est totalement contre, c'est une question qui est aujourd'hui en vogue. Agathon Gwasa s'est toujours opposé par rapport à d'autres plans du gouvernement qui n'attirent pas d'intérêt général. Aujourd'hui, Agathon Gwasa est favorable par rapport au dialogue inclusif qui est contre la volonté du pouvoir de Pierre Nkurunziza qui aujourd'hui demande que soit exclu ce que le pouvoir de Bujumbura qualifie de putschiste. Mais Agathon Gwasa, lui, veut un dialogue inclusif. Donc, vous comprenez qu'Agathon Gwasa n'est pas dans la droite ligne du pouvoir de Pierre Nkurunziza, ce qui lui met dans une situation de difficulté, bien qu'il préfère rester dans l'institution.
Est-ce que vous pensez que le pouvoir de Bujumbura acceptera de dialoguer avec tout le monde pour rétablir un peu la sérénité dans le pays?
Je ne crois pas que la voie du dialogue inclusif soit aujourd'hui une solution pour Burundi au regard de la position du pouvoir de Bujumbura. J'étais dernièrement à Arusha où la délégation du parti au pouvoir, le gouvernement n'était pas sur place. Le parti au pouvoir a clairement signifié qu'il ne compte jamais s'asseoir avec ce que le pouvoir de Bujumbura qualifie de putschiste. Donc tous ces membres du Sénarède, de toute cette plateforme de l'opposition sont mis dans le même paquet par le pouvoir de Bujumbura pour dire qu'ils sont des putschistes. La société civile, une partie de la société civile est mise dans le même paquet que les putschistes. Il y a une partie des journalistes qui est mise dans le même paquet que les putschistes. Donc vous comprenez que le gouvernement de Bujumbura s'est déjà tracé une ligne directrice pour montrer qu'il ne dialoguera qu'avec ceux qu'il veut.
Et vous pouvez écouter l'intégralité de l'entretien avec Patrick Mitabaro. Rendez-vous sur notre site internet www.dw.com/français/ et dans la rubrique médiathèque. C'est bientôt la fin de ce magazine. C'était Eric Topona au micro et je vous quitte sur ce proverbe malien et je cite « La petitesse du piment n'empêche pas qu'il soit piquant ». Fin de citation. À la semaine prochaine.
Africa vilaine. Mais joie, moi, faut fondre. Moi, faut venir.